Le mercredi 1er février 2006, le réseau Éducation sans frontières a appelé à une manifestation nationale pour dire non aux expulsions d'enfants sans papiers scolarisés en France, ainsi que pour l'élaboration d'un titre de séjour qui garantisse une vie privée et familiale décente avec un droit au travail. À Toulouse, sur la place du Capitole, une cinquantaine de personnes se sont donné rendez-vous pour une marche en direction de la préfecture. Il y a là de nombreux représentants d'associations qui luttent aux côtés des sans-papiers. Même si l'une des dernières circulaires du ministère de l'Intérieur repousse les reconduites à la frontière pour les familles avec des enfants scolarisés en France en juin prochain, tous les acteurs sociaux présents à la manifestation et que nous avons pu interroger semblent rester très vigilants et formulent de multiples critiques à l'encontre de la politique menée par le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy, et notamment ils sont très méfiants sur les déclarations du ministre au sujet de l'immigration choisie. Je vous propose d'entendre tout de suite et sur tous ces sujets la parole de monsieur Rémi Cochard, responsable de la Ligue des droits de l'homme.
Alors, je suis Rémi Cochard de la Ligue des droits de l'homme à Toulouse.
Et j'aurais voulu savoir justement la raison de votre présence sur la place du Capitole aujourd'hui.
Nous sommes là à l'initiative du réseau Éducation sans frontières dont nous faisons partie avec nous, Ligue des droits de l'homme, avec beaucoup d'autres associations, syndicats, associations de parents d'élèves, pour continuer à poser sur la place publique le problème des jeunes sans papier ou dont les parents sont sans papier, qui sont étudiants, lycéens, collégiens, qui font les mêmes études que tous leurs camarades d'établissement et qui sont sous la menace d'expulsion parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir des papiers, qu'ils n'ont pas demandé à être là, mais qu'ils ont manifestement un désir d'intégration et d'insertion dans la société française comme leurs autres camarades.
Combien il y a de cas aujourd'hui sur la région Midi-Pyrénées ?
Alors on pense qu'il y en a, c'est assez fluctuant, on pense qu'il y en a une trentaine, mais il y a également tous ceux qu'on ne connaît pas, parce que beaucoup de gens se cachent. Et le problème, c'est que dans certaines académies, Toulouse, je ne sais pas si c'est le cas, les rectorats commencent à demander aux chefs d'établissement la liste de leurs élèves éventuellement expulsables ou qui se trouveraient dans une situation de sans-papiers qui justifierait qu'à la fin de l'année scolaire, comme Sarkozy l'a promis, ils passeraient de l'autre côté de la frontière.
Comment réagissent justement les directeurs des écoles ?
On ne le sait pas encore, mais manifestement, au niveau des professeurs, au niveau du corps enseignant, il y a une forte mobilisation, une forte sensibilisation à ça.
D'où le réseau ?
D'où le réseau qui s'est implanté il y a quelques mois à Toulouse, mais ça n'est pas qu'un phénomène toulousain, puisque aujourd'hui, dans la France entière, il y a des manifestations qui sont organisées sur ce thème.
D'accord. Quelles sont les lois aujourd'hui qui sont en vigueur à l'endroit de ces familles ?
Elles sont en perpétuelle évolution, puisque Sarkozy prépare une loi sur l'immigration qui va encore renforcer les dangers.
Pourquoi justement ?
Pourquoi ? Au nom de la récupération non dite, mais de plus en plus évidente, des idées du Front National, restons français et restons entre français.
Mais en quoi elle renforcerait justement la précarité de ces familles sur le territoire ?
Parce que les conditions d'entrée seront de plus en plus difficiles, le regroupement, les possibilités de regroupement familial qui correspondent souvent à des situations tragiques sur le plan économique et social, ces possibilités vont devenir de plus en plus inexistantes.
Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, à la fin de l'année 2006, la fin de l'année scolaire de l'année 2006, certains élèves peuvent se retrouver à devoir partir dans leur pays ?
Absolument, absolument, et avec leurs parents, voire même s'ils sont majeurs, sans leurs parents, alors que leur vie depuis longtemps est déjà inscrite sur le territoire.
Il y a une autre notion que met en avant Nicolas Sarkozy, c'est qu'il voudrait une immigration propre, entre guillemets, c'est-à-dire de jeunes qui seraient susceptibles de pouvoir apporter une richesse, une plus-value à la France. Est-ce que ça, vous êtes d'accord avec ça ? C'est-à-dire, par exemple, des jeunes diplômés, une sélection de l'immigration par rapport à des classes sociales peut-être plus favorisées que d'autres ?
C'est ce qu'il appelle l'immigration choisie, qui en réalité n'a pas d'autre nom qu'une politique des quotas, et peut-être même aggravée par le fait qu'on va sélectionner les gens, les jeunes, les étudiants, les chercheurs qu'on va attirer en France, ce qui, en plus, va être au détriment des pays d'où ils viennent, puisque ça va contribuer à déshabiller en fait les possibilités de développement de ces pays.
En cheminant tranquillement sous le regard parfois perplexe des passants qui vaquent à leur occupation marchande, nous avons recueilli le témoignage de personnes qui souffrent de leur situation de sans-papiers. C'est le cas pour cette dame qui préfère garder l'anonymat, mais qui nous explique l'impasse administrative dans laquelle elle se trouve et revient sur ses difficiles conditions de vie dans un hôtel toulousain.
Avec mes deux enfants ici en France, il y a 3 ans, depuis 2002, et la préfecture m'a hébergé dans un hôtel. Et après, j'ai une pathologie très grave. J'ai déposé un autre dossier parce que j'ai eu un refus. J'ai déposé un dossier d'étranger malade, et l'inspecteur de l'ADAS, il a accepté le dossier. Il a dit à la préfecture de m'en donner une carte d'un an vie privée familiale. La préfecture a refusé la décision de l'inspecteur de l'ADAS, et je fais un recours au tribunal. Le tribunal, après, a examiné le dossier. Ils ont arrêté la décision de la préfecture. Et jusqu'à maintenant, la préfecture insiste, elle ne voulait pas me donner les papiers. Et en même temps, elle continue de m'héberger dans les hôtels et me donner des prestations mensuelles. Mais pour me donner les papiers, vivre normal comme tous les gens, non. Ce que mes enfants... voilà, ce que je suis hébergée depuis 3 ans dans l'hôtel. Et mes enfants, ils ont des problèmes psychologiques. Ils sont pris en charge par le service d'enfance du conseil général. Ils sont partent tous les week-ends des vacances dans des familles d'accueil parce que vraiment ils sont en dépression. Moi aussi, je vous ai dit, je fais mes traitements. Et je ne sais pas pourquoi la préfecture, elle insiste, ne voulait pas me donner les papiers. C'est leur seule excuse, c'est que les enfants sont loin de leur père.
Donc là, vous ne travaillez pas, vous
êtes... Non, je n'ai pas le droit de travailler.
Ah, oui, effectivement, vous n'avez pas travaillé sans papier.
Je n'ai pas le droit de travailler.
Vous savez combien de fois vous êtes en France?
Depuis 2002, d'accord. Vous voulez que vous écrivez ce nom-là?
Pardon?
Vous voulez que vous écrivez ce nom-là? Et vous, de vous, de qui?
Moi, je suis d'une radio associative qui s'appelle FMR à Toulouse, voilà. Mais là, je ne peux pas pour enregistrer parce qu'il y a le monsieur qui...
Ça va faire un peu...
C'est le moment, c'est la préfecture qui l'a envoyé.
C'est horrible avec la préfecture, c'est horrible. Votre prénom, c'est comment?
Mais j'aime pas parce que j'ai peur avec la préfecture. Si déjà, moi, j'étais porte-parole du collectif Espoir des sans-papiers.
Ouais.
Et c'est comme ils m'ont fiché à la préfecture, peut-être c'est que pour cela, ils ne voulaient pas me donner les papiers. Alors j'ai arrêté. C'est comme on me paye des millions ici. Et j'ai arrêté, je ne voulais pas continuer avec le collectif, mais je continue avec leur déplacement et tout ça.
Ça veut dire que vous êtes expulsable à partir de quand?
Le problème, chaque fois que je vois le chef de service des étrangers en préfecture, il me dit « Madame, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas expulsable parce que vous avez un bébé qui est né ici en France. Eh bien, donnez-moi les papiers. Non, madame, tu n'as pas le droit. Il faut attendre au moins 5 ans. » Et je tombais malade avant 5 ans et j'ai besoin de vivre comme tout le monde dans un appartement. Et j'ai donné les certificats médicaux pour les enfants qui ont un suivi psychologique, tout ça, ils sont coûtés carrément. Même pour ma pathologie, ils m'ont dit non, c'est rien ça, vous pouvez vous soigner dans votre pays. Et malgré que l'inspecteur de l'ADAS, il a écrit ça sur le papier, la dame ne peut pas être prise en charge par son pays, qu'elle ne peut pas suivre ses traitements là-bas et tout ça. Et eux, ils insistent.
C'est-à-dire qu'à la fois, vous n'êtes pas expulsable parce qu'un de vos enfants est né ici.
Voilà.
Et d'un autre côté, on ne veut pas vous donner des papiers pour régulariser votre...
Dans une impasse totale.
Un impasse, c'est ça, un impasse. Inexplicable aussi, oui. Je ne suis pas la seule d'ailleurs, il y en a plein. Surtout la majorité des familles, je les contacte, je les connais. La plupart, je dis 99%, ils ont des problèmes psychologiques maintenant. Ou bien leurs enfants, les adolescents surtout, ils ont des problèmes maintenant, ça commence avec la police. Et les grands, les adultes aussi, ils sont au bout de nerfs, tout le monde, ils vont s'exploser. Et est-ce que le problème, la préfecture insiste encore qu'on reste... dans les hôtels. Elle nous paye des milliards et des milliards. Elle nous donne des mensualités. Et je ne sais pas pourquoi ça. C'est, quand on parle de ça, ils disent non, ça c'est rien. On vous donne de l'argent des impôts. Mais les impôts, c'est quoi? C'est du gâteau ou quoi? Il y a des gens qui travaillent pour payer ces impôts-là. Ils disent non, c'est rien ça. On vous donne des impôts. Ça veut dire l'impôt ici, les impôts en France, l'argent des impôts, c'est pas pour les Français.
C'est pas. Travailler comme tout le monde,
on a dit, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin des dons du Conseil général. On veut travailler, on veut des immeubles comme tout le monde. Une famille à 5 à 6 enfants se trouve dans une seule chambre, 2 sur 3 mètres carrés, sur un seul lit. Un seul lit. On doit cuisiner là-bas, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de l'eau chaude, tout ce que la précarité des hôtels de Toulouse. Et jusqu'à maintenant, ils insistent, la préfecture, sur leur...
Sans aucune sécurité, j'imagine.
Ah non, rien, il n'y a pas de sécurité.
Je m'appelle Omar, du collectif des sans-papiers de la Bourse du Travail, c'est-à-dire le collectif sans-papiers 31 de la Bourse du Travail. Et on fait plusieurs actions avec les sans-papiers, les organisations, les syndicats, les soutiens,
les associations
pour faire des rassemblements, des manifestations, des revendications.
Quelles sont vos revendications justement aujourd'hui ?
Donc notre objectif est, nous exigeons tous ensemble, la régularisation de tous les sans-papiers qui font la demande. Et puis l'application d'un véritable droit d'asile, la fermeture immédiate des centres de rétention et l'arrêt des expulsions, le droit aux soins médicaux et un logement décent, le droit au travail pour empêcher l'exploitation des sans-papiers, la reconnaissance des citoyens de résidence.
En gros, le citoyen en France n'est pas vraiment au courant de la situation, de ce qui se passe sur son sol.
Ignacio, compagnon de route du collectif Sans Papier 31.
On lit nos représentants, on leur fait confiance et puis à leur façon. Alors, actuellement, il y a des milliers de travailleurs en France. Je dis des travailleurs, ce n'est pas des touristes, c'est des travailleurs. Ils travaillent, mais ils doivent vivre cachés comme des malfaiteurs. C'est quelque chose d'intolérable qu'une personne, quelle que soit sa nationalité, qui travaille, qui a une famille sur son droit, qui a des enfants, qui les a scolarisés, il a même souvent un logement. Mais pour aller chercher son pain, il faut qu'il cherche et regarde à droite et à gauche, en cas qu'il y ait l'uniforme à proximité. Il est obligé d'accepter n'importe quelle condition de travail à n'importe quel prix. Alors bien sûr, il faut qu'ils se débrouillent pour travailler, pour trouver de quoi vivre comme nous tous. Alors si on lui empêche, si on l'interdit, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Qu'il vole dans les voitures, sur les supermarchés, comme on le disent. En tout cas, il se génère une espèce de cours des miracles. Des gens qui vivent en fraude. Et comment s'étonner qu'il y ait de la fraude d'un côté et cette masse d'argent qui produisent, qui circule, qui ne paye pas d'impôts, est-ce que c'est bon pour la France? Qu'est-ce qu'il peut ressentir un adolescent qui voit galérer ses parents de cette façon, à travers le chômage, à travers la précarité? Comment cette personne qui aura les papiers français, qui vit en France et qui ne partira pas parce qu'il n'a pas de raison de partir, mais quelle sera l'envie qu'il aura de défendre cette République si lui-même il se voit persécuté, s'il voit ses parents, c'est ça qui est pire, persécuté presque. Il y a un principe, ça ne vient pas de moi, il y a quelqu'un qui l'a dit avant moi, toute loi qui génère injustice est illégale. Ça, on voudra le prendre comme on voudra, mais on fait des lois pour de la justice, pas pour de l'injustice. Et c'est ce qui se produit pourtant. Alors, il y a lieu de réviser un petit peu ces lois. On a besoin de lois et de règlements, mais elles sont valables au moment. Les situations qui ont motivé ces lois et ces règlements changent, et les lois restent. Alors maintenant, on est dans une situation invraisemblable. Nous avons des pays comme l'Espagne, comme l'Italie, qui ont, ils ont régularisé à tour de bras. Eh bien, ces gens-là, ils travaillent, ils sont payés, ils sont protégés par les lois sociales et cotisent à la sécurité sociale.
Amour sacré de la patrie, conduit, soutient son bras vengeur. Liberté, libère tes chéris, combat avec tes défenseurs.
Revenir sur les décisions, ou en tout cas celles qui vont être prises éventuellement par le ministre de l'Intérieur. On entend dire qu'il désire une immigration choisie. Qu'est-ce que vous entendez, vous, par là, par cette immigration choisie ?
On entend surtout par là que ça va être une répression féroce, hein, sur les étrangers qui sont déjà ici, en situation précaire ou en situation irrégulière. Et puis ça, on l'a déjà constaté de toute façon depuis cet été, où le ton s'est extrêmement durci.
Yamina Vierge, responsable de la CIMADE 31.
On a bien pris connaissance des nouveaux projets de loi concernant l'immigration. Donc ça va être des atteintes aux libertés fondamentales, des atteintes aux droits de l'homme, des familles séparées, des reconduites à la frontière massive. Enfin bon, pour nous, on est très inquiète de ce qui se passe en ce moment.
C'est une vraie régression ?
C'est une vraie régression dans le sens de la répression. L'immigration choisie, c'est finalement une façon d'instaurer des quotas sans le dire. Ça ne va pas répondre à la réalité de ce qu'est aujourd'hui le déplacement des populations un petit peu partout dans le monde.
Ce sont des choses qui portent atteinte directement aux valeurs de la République, selon vous ? On passe un cap là ?
Quand on va arrêter des enfants dans leur école, parce que ce sont des enfants étrangers, on accepte de les priver de liberté pendant des périodes de 32 jours, donc de rompre toute scolarité, de les mettre dans un lieu d'enfermement pendant 32 jours, alors qu'ils n'ont commis aucun délit et que ce sont des enfants, oui, enfin c'est grave.
Vous vous occupez plus ou moins à la CIMAD des centres de rétention et de toutes ces populations-là. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur ce qui se passe dans ces centres de rétention et est-ce que vous formulez des critiques à l'encontre de ces établissements-là ?
Alors, il faut savoir que la CIMADE, c'est la seule association au niveau national qui est habilitée par convention, hein, donc on est financé pour ça, pour intervenir auprès des étrangers qui sont dans les centres de rétention. Donc on est dans les principaux centres de rétention en France, en permanence, et on a assisté effectivement à une dégradation de la situation des étrangers qui sont placés en rétention. On assiste à une industrialisation de la reconduite à la frontière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne sont plus traités comme des êtres humains, mais on est vraiment là dans un objectif de chiffres. D'ailleurs, il y a des consignes très fermes qui sont données au préfet en termes de nombre de reconduites à effectuer sur une année, avec des vérifications régulières tous les mois, des reconduites. Donc on assiste à des dérives, des Français qui sont en rétention et qui sont reconduits, de plus en plus de gens qui sont en très mauvaise santé, des malades qui sont placés en rétention, des familles avec des enfants, etc. Donc une vraie dégradation des conditions de rétention et des gens qui n'ont rien à faire en rétention dans ces lieux d'enfermement qui sont pourtant de plus en plus fréquemment. Donc après, sur la question de la rétention en tant que telle, la CIMADE, elle est en train de travailler justement sur ces questions-là et sur les nouveaux projets de loi. Elle a mis en place une campagne pendant l'année 2006 sur ces questions pour d'abord vraiment informer l'opinion publique de ce qui se passe dans ces lieux-là, du sort qui est fait aux étrangers aujourd'hui, parce qu'il y a un grand besoin d'information. C'est vrai que dans les médias, on entend toujours un peu les mêmes choses. Donc nous, on est très bien informés, donc on va essayer de donner au maximum cette information et proposer à tous de mener une réflexion commune sur ce que pourrait être une réelle politique d'accueil et d'immigration en France.
Deux dernières petites questions. Justement, il y a quelques années, on avait l'impression que le mouvement des sans-papiers était quand même très présent dans les médias et que le mouvement était très très fort. On a aujourd'hui le sentiment qu'il y a une forme de régression, entre guillemets, de la présence médiatique ou même de la présence dans les luttes sur cette question-là.
Je crois que c'est en lien aussi avec la répression féroce que subissent aujourd'hui les sans-papiers. Autant il y a quelques années, les sans-papiers avaient décidé justement de ne plus être des clandestins, mais des sans-papiers et de se battre. Autant ces gens-là aujourd'hui vivent des conditions qui sont de plus en plus difficiles, quotidiennes, de précarité, de non-logement, de non-possibilité de travail, d'esclavage, etc. Et pour eux, ça doit être aussi beaucoup plus difficile de se mobiliser dans le contexte actuel qu'il y a une dizaine d'années. Donc je pense que c'est une des raisons peut-être qui peut expliquer que le mouvement des sans-papiers aujourd'hui n'est pas ce qu'il était à l'époque.
D'accord. Et la dernière question, c'est qu'il y a aujourd'hui des pays européens qui ont décidé de régulariser leurs sans-papiers. Ça prouve que c'est possible. Mais certains disent que si on fait ça, le risque, c'est pas d'effacer le problème, mais de passer à côté et qu'on retrouvera à un moment donné, par un effet d'appel d'air, le problème des sans-papiers.
Alors bon, déjà sur la question de l'appel d'air, on va peut-être pas en parler, mais enfin je crois que c'est quand même une notion qui est assez absurde. On sait qu'il y a des flux migratoires, on sait d'où ils viennent, on sait qu'ils évoluent en fonction de la géopolitique, des conflits dans le monde, etc. Et on sait de toute façon que toutes les barrières qu'on peut mettre en place sont totalement inefficaces quand les gens veulent quitter un endroit pour se réfugier ailleurs. Ils trouvent les moyens, quels qu'ils soient, de le faire. Cette question de la régularisation, de toute façon, c'est peut-être reculé pour me sauter, mais aujourd'hui c'est une nécessité parce qu'on a des gens qui sont en France depuis plusieurs années, qui sont installés, qui ont leurs enfants scolarisés en France, qui ont des enfants qui sont nés en France et qu'il va bien falloir trouver une solution, à moins de prendre la responsabilité de les reconduire par charter, quelles que soient les conditions humaines, etc. Donc il va falloir trouver une solution pour ces personnes-là. Et ensuite, de toute façon, ça ne dédouane absolument pas le politique de proposer une alternative à la politique répressive qui est de toute façon à terme maintenant.
Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. Nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu.
Cette seconde et dernière émission s'achève. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont bien voulu répondre à l'ensemble de mes questions. Cette émission a été réalisée par Sébastien Claret.